écoutez Radio France Internationale, il est 19h, ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir,
Marion Cazanov.
Et c'est le début d'RFI Soir, 2 heures d'infos avec nos chroniques, nos reportages, nos invités dans 30 minutes. Le débat avec le feuilleton Doliprane, on se demandera si la souveraineté industrielle en France, grand chantier d'Emmanuel Macron, cette souveraineté donc est une illusion. À 18h10, temps universel mardi politique, invité ce soir Patrick Kanner, sénateur socialiste du Nord. Ce sera suivi d'une demi-heure d'actualité africaine. On parlera notamment de la campagne des législatives au Tchad, où la coalition présidentielle est au bord de l'implosion. Action d'Europe à 19h10, TU, reportage en Ukraine où la capitale vient d'ouvrir un centre d'archives sur la guerre. 2 heures d'infos qui se termineront par le grand reportage en Russie qui accueille en ce moment le sommet des BRICS. Les membres devraient y durcir le ton face aux Occidentaux. On parlera en particulier des relations Moscou-Pékin, alliés mais pas trop. RFI Soir, vous avez le programme. On commence avec le grand journal international. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir Marion, bonsoir à toutes et tous.
Et à la une, les conséquences des bombardements israéliens au Liban.
Nous entendrons dans un instant le témoignage d'un habitant de la plaine de la Beka. Son village est touché quotidiennement par les frappes israéliennes. Ensuite, direction les États-Unis, à 2 semaines de l'élection présidentielle, notre correspondant Guillaume Nodin reviendra sur le vote de la communauté latino. En Russie, Vladimir Poutine célèbre ses alliances avec les pays des BRICS, les représentants des puissances émergentes, qui sont à Kazan jusqu'à jeudi, un sommet aux airs de pied de nez à l'Occident en plein contexte de la guerre contre l'Ukraine. Et puis en France, cette affaire embarrassante pour les députés La France Insoumise, l'un des leurs a été pris en flagrant délit d'achat de drogue.
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme se dit horrifié par une frappe près d'un hôpital de Beyrouth.
Volker Türk demande une enquête approfondie après ce bombardement hier lundi dans un quartier densément peuplé. Il est question d'au moins 18 morts. Plus largement, les frappes israéliennes au Liban ont fait en près d'un mois plus de 1550 victimes selon le décompte de nos collègues de l'agence France Presse. Parmi les zones bombardées, la plaine de la Beka dans l'est du pays. Les habitants qui n'ont pas pu fuir les villages frappés par l'armée israélienne sont contraints de se débrouiller tout seuls pour survivre. C'est le cas d'Abou Ali, un Libanais chiite qui habite dans le village de Taraya, bombardé tous les jours par l'État hébreu.
Je fais 10 km à pied pour venir dans cette pharmacie. C'est la seule qui est ouverte aux alentours. Ma femme a fini ses médicaments pour la tension et le diabète, donc je viens en chercher. Comment vous expliquer que ce soit le seul endroit ouvert après les frappes? Et en plus, cette pharmacie a aussi été touchée par une explosion. Moi, je n'ai pas d'argent pour me déplacer et partir. Nous sommes 8 à la maison. Moi, ma femme et mes enfants. Regardez, il n'y a plus rien ici. Même la boulangerie est fermée. On survit en faisant du pain chez nous. Ou avec nos propres réserves. Où est l'humanité? Que font les Nations Unies? Où sont la France et les droits de l'homme?
Abou Ali, habitant chiite de la plaine de la Beka, au micro de notre envoyé spécial Pierre Olivier. C'est dans ce contexte que Benjamin Netanyahou a rencontré le chef de la diplomatie américaine aujourd'hui. Anthony Blinken, dont c'est le 11e voyage dans la région depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, le Premier ministre israélien l'a assuré à son interlocuteur. La mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas tué la semaine dernière à Gaza, pourrait avoir un effet positif sur le retour des otages. Le secrétaire d'État américain espère, lui, obtenir un cessez-le-feu dans la région à 2 semaines maintenant de la présidentielle aux États-Unis.
Et la présidentielle américaine, on y vient justement, le dossier de ce journal ce soir, Diane, c'est le vote de la communauté latino-américaine.
Oui, car dans ce scrutin qui s'annonce serré, chaque voix compte et le résultat peut se jouer à quelques détails, en particulier dans 7 états clés susceptibles de basculer dans un camp ou un autre le jour J. Penchons-nous donc ce soir sur le vote latino et pour en parler, nous sommes en ligne avec Guillaume Nodin, notre correspondant à Washington. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
La communauté latino, c'est l'un des groupes les moins homogènes dans le paysage électoral.
Oui, aux États-Unis, il y a les blancs évangéliques qui votent quasiment comme un seul homme pour Donald Trump. Il y a les afro-américains qui sont traditionnellement ultra-majoritairement pour le parti démocrate, même si les jeunes hommes noirs ne sont pas si catégoriques ces derniers temps. Et puis, il y a les latinos qui sont beaucoup plus partagés. D'abord, ils ont tendance, si on les prend comme un tout, à voter moins que d'autres groupes. Mais quand ils votent, traditionnellement, ils penchent plutôt du côté démocrate. Cela étant, depuis plusieurs scrutins, les républicains réduisent l'écart. Il y a 4 ans, un peu plus de 60 40% des latinos avaient voté Biden, mais les républicains font des progrès chez les jeunes hommes peu diplômés. Ils sont séduits par Donald Trump et son image de gagnant qu'il parvient à faire persister. C'est aussi le cas des propriétaires de petites entreprises. Ils sont souvent latinos et là encore, ils ont tendance à faire davantage confiance aux républicains pour ce qui est de la gestion de la situation économique. Bref, ils votent moins en fonction de leur origine ou de leur langue que de leur place dans la société.
Mais ils jouent quand même un rôle décisif dans certains états clés.
Alors c'est assez évident pour ceux du sud-ouest, ceux qui sont proches de la frontière sud, le Nevada et surtout l'Arizona. C'est moins intuitif pour d'autres, mais il y a des électeurs latinos partout. Par exemple, en Pennsylvanie, l'état le plus labouré par les candidats avec ses 19 grands électeurs dans la balance. Certains centres des villes qui constituent le cœur du bassin industriel historique de l'état, dans certains de ces centres-villes, ils sont même ultra majoritaires. C'est le cas par exemple à Allentown, dans la vallée de la Lehigh. Les deux candidats à la vice-présidence, le républicain J.D. Vance et le démocrate Tim Walz, y sont allés.
La bataille pour la mobilisation des latinos va donc continuer, Guillaume.
Oui, ce matin, Donald Trump participait à une table ronde avec des leaders de la communauté latino dans l'une de ses propriétés en Floride. Ce soir, Kamala Harris participe à une émission d'une des chaînes américaines en espagnol et qui sera diffusée sur les plateformes de NBC. Et puis, il continue à cibler les électeurs latinos, notamment les propriétaires de petites entreprises qui sont donc davantage attirés par Donald Trump. Elle a déjà publié un programme spécifique pour eux. Elle le complète ce jour avec d'autres mesures, des mesures largement inspirées de celles qu'elle a déjà proposées pour les jeunes hommes afro-américains. Elle reprend par exemple, presque à l'identique, son idée de prêt de 20 000 $ pour les jeunes créateurs d'entreprises latinos, des prêts qui pourront, le cas échéant, ne pas être remboursés ou dont le remboursement pourra être différé sous certaines conditions. On imagine qu'on verra ça après l'élection.
Merci beaucoup Guillaume Nodin, en direct de Washington pour RFI. Juste à côté des États-Unis, le courant revient progressivement à Cuba. 70% maintenant de la population a de nouveau de l'électricité, selon le dernier point du ministère des Énergies. 4 jours après la panne géante qui a paralysé l'île et plongé les habitants dans le noir en plein passage de la tempête Oscar, le bilan de l'ouragan est de 6 morts.
La Russie, condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme.
C'est au sujet de la loi russe sur les agents de l'étranger, un texte adopté en 2012 qui oblige toute entité recevant un soutien financier ou autre depuis l'extérieur de la Russie à s'enregistrer et à se déclarer comme agent de l'étranger. La juridiction européenne installée à Strasbourg l'estime arbitraire et elle crée un climat de méfiance envers les associations. Les précisions depuis Strasbourg de Jean-Jacques Herry.
D'abord cantonné au champ des ONG, le périmètre de la loi s'est peu à peu élargi, intégrant progressivement les organisations de défense des droits de l'homme ou encore les médias critiques du pouvoir, avec pour conséquence des amendes et des restrictions de leurs activités. Saisis par 107 ONG, militants écologistes, observateurs électoraux ou encore médias, la CEDH leur a donc donné raison, évoquant des mesures arbitraires et des sanctions disproportionnées et explicitant dans sa décision le fait que cette législation avait pour but de punir et d'intimider plutôt que de répondre à un besoin allégué de transparence ou à des impératifs légitimes de sécurité nationale. Bref, de mettre au pas la société civile russe. Raphaël Glucksmann, député européen du groupe des sociodémocrates, se réjouit de cette condamnation.
C'est une décision symboliquement importante, mais la vérité c'est que c'est pas la première condamnation de la Russie. Les opposants aujourd'hui en Russie sont soit en prison, soit morts, soit en exil, soit ils se cachent. Plus personne n'a d'illusion sur la nature du régime russe. C'est une dictature absolue.
Depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine, la Russie a été exclue du Conseil de l'Europe dont dépend la CEDH. Mais théoriquement, les décisions de la Cour continuent à s'imposer à elle pour des faits antérieurs à cette date. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI.
Et cette condamnation en Europe n'empêche pas Moscou de choyer ses quelques alliés.
Oui, c'est le début du sommet des BRICS à Kazan, en Russie. Les représentants des puissances émergentes y sont réunis jusqu'à jeudi prochain. Pour le Kremlin, il s'agit de montrer qu'il n'est pas si isolé que ça sur la scène internationale. C'est le premier grand événement sur le territoire russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Parmi les invités, il y a le Premier ministre indien Narendra Modi, le dirigeant qui n'a jamais condamné l'assaut russe en Ukraine. Et devant le chef du Kremlin tout à l'heure, Narendra Modi a plaidé pour un retour rapide de la paix en Ukraine.
Excellency, Russe et Ukraine ke bich chal rahe sangharsh ke vishay par.
Excellence, nous sommes en contact constant à propos du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comme je l'ai déjà dit, nous croyons que les conflits ont vocation à être résolus uniquement pacifiquement. Nous soutenons totalement les efforts visant à rétablir rapidement la paix et la stabilité. Tous nos efforts placent l'humanité au premier plan. L'Inde est prête à offrir tout son soutien dans les temps à venir.
Le président chinois Xi Jinping a lui vanté la solidité des relations entre Pékin et Moscou dans un contexte international, je cite, « chaotique ». La Chine et la Russie, dont les économies sont scrutées de près par le reste du monde. Le FMI, le Fonds monétaire international, vient en effet de publier son rapport annuel sur la croissance mondiale à quelques jours d'une réunion internationale importante sur l'économie de la planète à Washington. Et avec forcément donc une certaine attention concernant les économies russes et chinoises. Moscou fait mieux que prévu, Pékin moins bien, Nathanaël Vitran.
Le FMI prévoit désormais une croissance de 3,6% pour la Russie, mieux que les 3,2% anticipés jusque-là. À l'heure où Vladimir Poutine réunit ses alliés des BRICS pour un sommet à Kazan, l'économie russe prouve qu'elle a su résister aux sanctions occidentales prises dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine début 2022. Une économie de guerre portée par les milliards de dollars investis par l'État russe dans le complexe militaro-industriel. Mais une économie structurellement fragile. Le FMI parie sur une forte baisse de la croissance en 2025, sur fond de très forte inflation et d'une pénurie chronique de main-d'œuvre. Concernant la Chine, le Fonds monétaire ne croit plus qu'elle tiendra son objectif d'atteindre 5% de croissance en 2024. Les récentes annonces de Pékin en soutien à son secteur immobilier en grande difficulté n'ont pas convaincu le FMI, également inquiet de la faiblesse de la consommation intérieure et du chômage des jeunes.
Nathanaël Vitran.
RFI, midi 12 à Cali. La COP16 dédiée à la biodiversité se poursuit à Cali, en Colombie.
196 pays réunis jusqu'à la fin de la semaine prochaine avec un objectif: passer des paroles aux actes et concrétiser l'engagement international de protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030. Cela passe notamment par la mise en place d'objectifs nationaux, des plans nature, sorte d'équivalent des plans climat pris dans la lutte contre le réchauffement. Un problème: à date, très peu de pays ont rendu leur copie, Simon Rosé.
Ils s'étaient pourtant engagés à le faire avant la COP16, mais voilà, parmi les 196 États représentés, seuls une trentaine ont soumis à temps leur stratégie nationale en faveur de la biodiversité. Quelques contributions ont néanmoins été déposées depuis l'ouverture de la conférence, notamment celle de la Colombie, très attendue en raison de la richesse de sa nature et car le pays est l'hôte de cette COP. Ambitieux, ce plan de 350 pages vise à augmenter de 10% le nombre de zones protégées du pays. Il établit également des liens clairs entre la nature et le climat. À ce maigre nombre de plans, les optimistes ajouteront ce qu'on appelle les cibles nationales, un engagement qui n'est ni aussi fort ni aussi exhaustif que ce qui était demandé, mais qui a le mérite d'exister. Plus de 2500 ont été déposés par 110 pays. Là aussi, une contribution était particulièrement attendue, celle du Brésil, rendue publique à l'occasion de cette COP. 250 actions, zones protégées, adaptation aux conséquences du réchauffement climatique grâce à des solutions basées sur la nature. Le document brasse large, mais reste inachevé, décevant selon les observateurs, qui attendent plus d'un pays qui se présente comme un champion mondial en la matière.
Simon Rosé du service environnement de RFI.
En France, c'est une polémique dont se serait bien passé le parti de Jean-Luc Mélenchon.
L'un des députés de la France insoumise, Andy Kerbra, a été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants. L'affaire remonte à il y a 5 jours. Le produit incriminé, c'est une drogue de synthèse proche de la cocaïne. L'élu annonce entamer un protocole de soins et il se met à la disposition de la justice. Le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'appelle à, je cite, tirer les conséquences de ses actes. Et l'affaire fait jaser à l'Assemblée. Pour les députés Ensemble pour la République, Mathieu Lefèvre, Andy Kerbra ne peut pas être au-dessus des lois.
Il doit interroger sa conscience d'élu de la République. On ne peut pas faire la loi la semaine et le week-end de s'en exonérer à titre personnel. Ça n'est pas possible. Monsieur Kerbra devrait avoir un peu de décence et demander à ses électeurs s'ils lui font toujours confiance pour porter la voix de la République au sein de l'Assemblée nationale. C'est une priorité de santé publique, mais c'est aussi une priorité d'ordre public. Le narcotrafic dans notre pays, ça gangrène pas seulement les grandes villes, mais les petites et les moyennes villes. Il y a des gamins qui prennent des balles perdues à cause de trafiquants et de gangsters. La vérité, c'est que les consommateurs, ils ont une responsabilité, une très lourde responsabilité dans le développement des trafics. Et imaginez qu'un parlementaire puisse avoir cette responsabilité, c'est une responsabilité au carré et il faut évidemment en tirer toutes les conséquences.
Le député LFI Paul Vanier appelle lui à avoir un peu de compassion pour lui. Son collègue est avant tout une personne malade.
Les élus doivent être exemplaires et ils doivent d'abord respecter la loi. Et si mon collègue ne l'a pas respectée, eh bien il sera sanctionné par la justice comme il se doit. Mais l'exemplarité en la matière, elle consiste, je crois, à adresser un message très clair aux millions de nos compatriotes qui sont touchés par cette maladie, celle d'une addiction au tabac, à l'alcool, à la drogue. L'exemplarité consiste en la matière à adresser un message de soutien aux malades, à faire en sorte, pour les députés que nous sommes, de leur garantir des conditions leur permettant de se soigner et d'être guéris.
Des propos recueillis à l'Assemblée nationale par Charlotte Urien-Tomaca. Et puis on connaît les finalistes du prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français. Sandrine Colette, nommée pour son roman Madeleine avant l'aube, le franco-rwandais Gaël Faye pour Jacaranda, l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud pour Houri et Hélène Gaudy pour son livre Archipel. Le verdict, c'est le 4 novembre prochain. Il est maintenant quasiment 17h16 en temps universel. RFI Soir, c'est avec Marion Kazanov.
Et c'était le journal de Diane Berger, merci. RFI Soir, à la suite, on appellera nos confrères de Politico, comme tous les mardis, pour feuilleter un de leurs articles ce soir sur le jeu d'équilibriste d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. On ira aussi au Japon, où la bétonisation, la déforestation réduit un peu plus l'habitat des espèces sauvages. Mais d'abord, c'est le journal des sports. Bonsoir, salut Diouf.
Bonsoir Mario.
Et on commence avec du football. Le PSG retrouve la Coupe d'Europe ce soir.
Et le club de la capitale reçoit le PSV Eindhoven au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Après une victoire et une défaite lors des deux premiers matchs de la compétition, les Parisiens doivent impérativement prendre les trois points à domicile pour faire bonne figure au classement. Le milieu de terrain rouge et bleu, Kang In-Lee l'affirme, l'ensemble de l'effectif est concerné et surtout déterminé pour remporter cette victoire.
Il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer et je suis sûr qu'on va le faire. En football, on peut toujours avoir cet objectif. Moi, comme tous les joueurs, le staff technique, on est tourné vers l'idée de remporter chaque match. Je pense d'ailleurs que toutes les rencontres du PSG sont importantes. Le championnat, la coupe, mais évidemment la Ligue des Champions. Chaque match est une finale pour nous. On va faire de notre mieux pour prendre les trois points contre le PSV.
Coup d'envoi du match 19h temps universel.
Et d'autres rencontres de Ligue des Champions sont au programme à la même heure.
Et elles sont alléchantes. Le Real Madrid, tenant du titre, reçoit le Borussia Dortmund. Rappelez-vous, c'est le remake de la dernière finale. Arsenal accueille le Shakhtar Donetsk à Londres et le VfB Stuttgart se déplace en Italie sur la pelouse de la Juventus de Turin.
Et toujours en football, en Ligue 1, Montpellier fait du neuf avec du vieux.
Car c'est officiel, Jean-Louis Gasset est le nouvel entraîneur de Montpellier, un club qu'il connaît parfaitement puisqu'il a été joueur puis entraîneur à deux reprises, l'ancien technicien de l'Olympique de Marseille, âgé de 70 ans, succède à Michel Derzakarian.
Du basket maintenant, salut, on traverse la Manche avec le retour de la NBA.
La saison régulière débute ce soir, la ligue la plus prestigieuse du monde où les 30 équipes vont tenter de se qualifier pour les phases finales du printemps prochain. Le premier match oppose les Boston Celtics, champions en titre aux New York Knicks. L'autre rencontre oppose Minnesota aux Los Angeles Lakers, l'équipe de la légende LeBron James. Et après avoir remporté la médaille d'or au JO de Paris, l'ailier américain qui fêtera bientôt ses 40 ans entame une 22e saison en NBA, la première aux côtés de son fils Bronny, du jamais vu dans l'histoire de la Ligue, ce qui le réjouit particulièrement.
C'est un pur bonheur, pour être honnête, de pouvoir venir tous les jours travailler avec son fils et de pouvoir le voir continuer à grandir. Nous nous poussons mutuellement, il me pousse, je le pousse, c'est vraiment stimulant. C'est un moment très réjouissant, non seulement pour moi, mais aussi pour notre famille. Cela donne beaucoup d'énergie d'être l'un à côté de l'autre. Il a 20 ans et avec les autres jeunes, il donne un plus de vie à l'équipe, donc c'est vraiment formidable.
Young guys on the team, so it's awesome. Los Angeles, Minnesota, Timberwolves à 2h temps universel la nuit prochaine.
Et donc bien de l'autre côté,
oui,
de l'Atlantique.
C'est l'Atlantique et non la Manche, effectivement.
Merci. C'était le journal des sports de Salut Diouf. Une des médias ce soir avec nos confrères de Politico. On lit un article consacré aux volte-face du président français Emmanuel Macron au Proche-Orient. Président qui envoie des signaux contradictoires sur Israël et Gaza. C'est ce que vous écrivez. Cléa Colcott, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez écrit cet article en anglais, je précise. Vous avez rencontré des fonctionnaires, des diplomates français dans le cadre de cet article qui vous expliquent que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, les positions sont très diverses.
Oui, effectivement, dans d'autres pays, les positions semblent beaucoup plus homogènes. En France, on a effectivement plusieurs courants et parfois ça fait un peu tourner la tête. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire, alors l'histoire entre la France et l'Israël est complexe, mais grosso modo, il y a un courant, le terme est un peu désuet, mais tiers-mondiste, plutôt sensible à la cause palestinienne, plutôt proche des pays du monde arabe. Donc c'est ce courant qui a été en force sous la présidence de Jacques Chirac, par exemple. On se souvient de lui avec l'altercation avec les soldats à Jérusalem dans les années 90. Donc il y a ce courant-là au sein, par exemple, du Quai d'Orsay, mais qui est aussi présent voilà, dans l'entourage, la cellule diplomatique de l'Élysée. Et il y a un autre courant qui est quand même un peu plus récent, mais qui est aussi monté en puissance, surtout sous la présidence de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. C'est un courant qui a un peu nommé, entre guillemets, les néoconservateurs, qui est plus proche des États-Unis, plus proche d'Israël, et qui s'est imposé un peu, surtout sur les sujets liés au terrorisme, etc. Et donc, ces deux courants un peu se chevauchent et on peut les rencontrer dans les cabinets. On a l'impression quand même que le courant un peu pro-palestinien a perdu un peu de sa superbe, mais qu'avec voilà, le conflit à Gaza qui s'enlise, ils reprennent peut-être un peu du poil de la bête.
Et donc le président lui-même s'est montré contradictoire aussi hein, sur le conflit au Proche-Orient. Parfois, il critique Israël, tout en rappelant aussi son soutien inébranlable à l'État hébreu. Comment ça s'est traduit ces dernières semaines, ces prises de position?
Alors oui, effectivement, on a eu un peu du mal à suivre le positionnement du président français. Donc on a clairement l'impression qu'il y a un peu un durcissement à l'Élysée sur la question, notamment suite à ce qui se passe à Gaza, les morts, le conflit qui semble sans fin, mais aussi la situation au Liban où justement il y a beaucoup d'attaques aériennes israéliennes et donc une déstabilisation. Donc on voit un durcissement. Le président, par exemple, ces dernières semaines, a appelé à un embargo d'armes Israël. Il a aussi, alors dans des conditions, c'est un peu flou, voulu rappeler à Netanyahou que selon ses termes, c'est une décision de l'ONU qui avait créé Israël dans les années 40 et donc il faudrait peut-être suivre un peu les résolutions de l'ONU. Mais voilà, tout ça semble un tout petit peu brouillon parce que suite à l'appel d'arrêter de livrer des armes, on a un appel entre Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et Emmanuel Macron, où après il y a un communiqué où l'Élysée parle de l'indéfectible engagement de la France pour la sécurité d'Israël. Même les propos sur l'ONU du président, il revient dessus, il dit que ça a été un peu... il y a une distorsion des médias, voilà. Donc, on est un peu perdu là-dessus.
Alors, au fond, quelle est la politique d'Emmanuel Macron dans ce conflit au Proche-Orient? Comment est-ce qu'on peut la définir, si on peut la définir?
Alors, il y a quand même des bases, il y a des fondements. Alors, les fondements, c'est assez classique, hein. C'est soutien aux deux États, Israël et un État palestinien. C'est la sécurité d'Israël. Israël a le droit d'exister et une solution politique pour les Palestiniens. Voilà, c'est un peu la base. Après, la difficulté, c'est que on est dans une situation de plus en plus polarisée avec des positions des uns et des autres qui sont de plus en plus difficiles à réconcilier, surtout en France. Et donc aussi un président dont on a le sentiment qu'il veut reprendre la main, qu'il veut être à l'initiative, qu'il essaie de donner un coup dans un sens. Voilà, il va aller un peu chercher Benjamin Netanyahou qui a une popularité qui est parmi les dirigeants étrangers. Il n'est pas du tout populaire. Donc Emmanuel Macron essaie de le chercher pour le ramener un peu dans, je ne sais pas, le concert des nations et tout ça, mais en même temps, il se prend des coups là-dessus.
Et alors, pourquoi est-ce si difficile, pour conclure, Cléa Colcott, en France, pour un président français, d'assumer une position claire sur ces sujets-là?
Alors, c'est compliqué parce que, d'une part, il y a quand même la dimension interne, c'est-à-dire que la France a les deux plus grandes communautés juives et musulmanes d'Europe. Et donc, c'est un conflit qui a des répercussions internes très, très fortes, ce qui alimente la politique étrangère. Et ça, c'est quand même quelque chose. Alors, nous, on a un peu l'habitude, mais c'est très différent des autres pays, où, par exemple, l'Irlande, l'Allemagne, l'Espagne, où on a des positions historiquement très fortes, mais c'est moins lié à des communautés. français, qui vont vivre les choses vraiment de manière très émotionnelle, très proche, et donc essayer de se distinguer pour un président français sur ce dossier qui est très très difficile, où on voit une situation au Moyen-Orient qui empire tout le temps. C'est difficile sans brusquer les uns ou les autres, sans être critiqué d'un côté ou de l'autre.
Et Cléa Colcott, merci, journaliste chez Politico. Vous signez cet article en anglais sur la position contradictoire d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, article que l'on peut d'ores et déjà lire sur le site de Politico. RFI 17h25 en temps universel. Les débats se poursuivent à Cali, en Colombie, où se déroule la COP 16 sur la biodiversité. Une COP un peu moins connue que sa grande sœur sur le climat, mais les enjeux sont liés. Concernant la biodiversité, il y a urgence, comme pour le climat. Selon le WWF, les populations d'espèces de vertébrés ont diminué de plus de 70% ces 50 dernières années. Et pour beaucoup de raisons différentes, notamment parce que leur habitat se réduit, car l'homme prend de plus en plus de place. Illustration au Japon, où des espèces sauvages en viennent à s'aventurer dans les grandes villes, même à Tokyo. Reportage sur place de Bruno Duval.
À Tokyo, la nuit, on croise de plus en plus souvent des civettes ou chats musqués, ces petits mammifères qui ressemblent un peu à des fouines et qu'on n'avait jamais vus en ville auparavant. Encore plus improbable, dans la capitale, désormais, on aperçoit des singes, y compris dans les arrondissements centraux très peuplés, comme Itabashi. Ces deux habitants n'en reviennent toujours pas d'avoir entrevu de tels macaques.
Il s'épouillait tranquillement, juché sur un muret. J'en étais médusé. Ensuite, il a escaladé un arbre, puis de là, a sauté sur le toit d'une maisonnette et il s'en est allé.
Deux ou trois macaques couraient après des enfants qui rentraient de l'école. Les pauvres petits, ils étaient complètement terrorisés.
Pour les spécialistes, ces animaux sauvages se hasardent en ville en raison de l'urbanisation à outrance des zones semi-rurales jouxtant le centre de la capitale. Qui est si densément peuplé et bâti que, pour accueillir de nouveaux habitants, les campagnes ne cessant de se dépeupler au Japon, il faut à présent et impérativement bétonner les faubourgs, raser des forêts par exemple, où ces singes vivaient. Résultat, faute de lieux d'habitat, ils migrent en ville. Moins spectaculaire, mais selon les experts plus inquiétant, à en croire le dernier recensement en date du ministère de l'Environnement, une quinzaine d'espèces d'oiseaux sont menacées à terme de disparition dans l'archipel. Parmi elles figurent des espèces jadis aussi courantes que le moineau, la bergeronnette ou la bécassine par exemple. En cause, la réduction des zones humides dues au réchauffement climatique et l'urbanisation des forêts, des prairies ou des bocages où ces espèces vivaient. Pour cet ornithologue, deux autres facteurs accélèrent la raréfaction des oiseaux.
En ville, ils ont de moins en moins d'endroits où nicher. Les hirondelles, par exemple, construisent leurs nids sous les avant-toits, sous les corniches ou dans des interstices entre les tuiles. Mais énormément de maisons individuelles ont cédé la place à des immeubles pleins d'appartements qui ne leur offrent pas une telle possibilité. Et puis, en milieu rural, ces oiseaux ne trouvent plus de quoi se nourrir en raison de la généralisation de l'usage des pesticides. On trouve de moins en moins d'insectes et de vers de terre. Et à terme, cela va poser de gros problèmes aux agriculteurs. Moins d'oiseaux, cela veut dire plus d'insectes qui prolifèrent, donc la nécessité d'utiliser encore plus d'insecticides. Bref, un cercle vicieux sans fin et extrêmement nuisible à l'environnement.
Une trentaine d'espèces de papillons sont également menacées de disparition au Japon. Faute d'alimentation suffisante, la transformation d'espaces verts en zones d'habitat réduisant le nombre et la variété de plantes à butiner. À cet égard, alertent les experts, l'extinction redoutée de ces insectes pollinisateurs essentiels aurait des conséquences catastrophiques sur la biodiversité végétale. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Le reportage international à retrouver, à réécouter sur notre site RFI.fr. On se retrouve dans quelques minutes sur RFI avec le débat. On se demandera si la souveraineté industrielle est une illusion en France.
Santé. Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
comment rebondir après une rupture amoureuse, un examen raté ou un échec professionnel?
Jeudi,
on parle prévention et vaccination contre la polio.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
L'ordinateur pour tous, dans les écoles et les lycées, c'est encore un objectif difficile à atteindre pour beaucoup de pays. Mais la Suède, qui avait tout misé sur l'informatique, fait marche arrière. Livres, cahiers et stylos font leur retour sur les pupitres, en cause une baisse du niveau des élèves.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI. Ce mardi, sur RFI.
Comment les odeurs agissent sur notre cerveau ?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
L'odorat est notre tout premier sens, celui qui nous relie in utero déjà à notre mère, à la source de tous nos goûts et de nos dégoûts, aussi bien alimentaires que sensuels et sexuels. Pourquoi une odeur ou un parfum éveille tant d'émotions et de souvenirs ? Notre cerveau a-t-il du nez ?
Autour de la question, tout à l'heure